Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, la colère de la rue en Turquie face à l'effondrement de la démocratie. La Turquie en pleine ébullition, secouée depuis 6 jours par une vague de protestations inédite dans le pays depuis 12 ans. Des centaines de milliers de personnes dans les rues pour protester contre l'arrestation et l'incarcération du très populaire maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. La bête noire est le principal opposant politique du président Erdogan. Le raïs turc, qui depuis plus de 2 décennies tient d'une main de fer les destinées de son pays et qui semble avoir choisi le scénario du pire en se débarrassant ainsi brutalement de son rival, menaçant de faire basculer la Turquie dans une véritable autocratie. Après des années de dérive autoritaire, la démocratie turque a-t-elle vécu? Jusqu'où ira la contestation face à la répression du régime? On en parle ce soir avec nos invités à mes côtés dans ce studio. Adel Bakawan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut européen d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, chercheur associé également au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI et auteur de La décomposition du Moyen-Orient. C'est un livre à paraître en mai prochain aux éditions Erol. Également avec nous ce soir, Didier Billon. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, auteur notamment de « Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde » aux éditions Agone. Bienvenue à vous deux sur RFI. Didier Billon, est-ce qu'on assiste un véritable tournant aujourd'hui en Turquie avec cette arrestation du principal opposant politique du président turc?
Oui, c'est un tournant. Nous sommes malheureusement habitués aux mauvaises nouvelles en ce qui concerne les libertés démocratiques en Turquie. Je date pour ma part le début de cette dérive liberticide de Erdogan aux années 2011-2012, donc ce n'est pas hier. On avait constaté une accélération de ce cours liberticide après la tentative de coup d'État de 2016. Et on peut constater depuis déjà quelques mois qu'il y a multiplication des arrestations de militants et de responsables des partis d'opposition, de destitution de maires, notamment du parti kurdiste, le DEM. Nous avons assisté il y a un mois environ à l'arrestation de 2 des principaux dirigeants de la TÜSİAD. La TÜSİAD, c'est le grand syndicat patronal turc. Si l'on veut faire une comparaison, c'est un peu le MEDEF turc. Donc tout cela va très loin et je ne parle pas bien sûr de l'état de la liberté de la presse qui est pour le moins entamé avec la multiplication des arrestations de journalistes et de chroniqueurs. Mais là, avec le maire d'Istanbul, principal parti d'opposition, maire de la principale ville de Turquie, petite ville d'environ 17 millions d'habitants, un pas a été franchi qui préjuge ou qui présume un raidissement des pratiques autoritaires de Erdogan. Et donc il y a là une sorte de fuite en avant et incontestablement, nous sommes entrés désormais dans une nouvelle séquence politique.
Adel Bakawan, avec cette arrestation du maire d'Istanbul, le président Erdogan achève son long travail de sape de la démocratie?
Écoutez, je ne sais pas si la démocratie est une problématique majeure aujourd'hui en Turquie pour...
Pour les manifestants, visiblement, elle est un peu...
Pour le système en place, je parle. Pour le système en place.
Ça, on avait noté.
Voilà, le système en place ne s'est pas construit sur le principe de la démocratie. Le souci du système n'est absolument pas la démocratie. Le seul souci à l'échelle interne posé au monsieur Erdogan, le président de la République, c'est le nouveau mandat. Donc il va, juridiquement parlant, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se représenter en 2028. Mais devant lui, il a des marges de manœuvre très très importantes. La première marge de manœuvre, c'est le processus de paix avec les Kurdes du PKK et de Dem Parti, les Kurdes d'une manière générale. C'est fait, c'est en cours. si vous regardez le champ politique, les tendances à l'intérieur du champ politique, on a l'impression avec les manifestations que Erdogan est isolé. Mais en réalité, il n'est absolument pas isolé. Il est le chef du centre. Le centre est occupé par le AKP. Il a pour alliance stratégique avec la droite et l'extrême droite. Désormais, avec le processus d'Oupé, il a les Kurdes aussi avec lui. Hein. Je fais le pari, il est peu probable que les Kurdes soutiennent cette fois le candidat du Parti des Républicains face à Erdogan, parce qu'en 2024, lorsqu'ils ont soutenu Imam Orlo, hein, pendant les élections municipales, ils ont payé très très très cher et le CHP n'a pas fait aucune manifestation, n'a pas rendu la dette. Donc pour résumer, Erdogan, dans le champ politique turc, il a beaucoup plus d'alliés que le CHP, il a beaucoup plus de ressources étatiques et non étatiques qu'Imam Orlo. À l'échelle internationale, l'Europe et les États-Unis ne vont pas intervenir et provoquer Erdogan pour soutenir Imam Orlo, sauf à des marges très très très réduites. À l'échelle moyen-orientale, Erdogan monte en force. Aujourd'hui, le CHP n'a que la rue. Les orientations stratégiques de la rue détermineront l'avenir de ce mouvement.
Didier Billon, le président Erdogan considère qu'il est à l'abri de tout retour de bâton, d'où ce coup de force aujourd'hui. Vous partagez ce sentiment ?
J'ai une petite nuance avec mon ami Adèle, c'est que, certes, d'accord avec lui pour dire que Erdogan est au centre du système, qu'il n'est pas à terre, qu'il est toujours président de la République, qu'il a une majorité parlementaire, qu'il contrôle une bonne partie des médias et les appareils répressifs. Ça, c'est vrai. Pour autant, n'oublions jamais ce qui s'est passé il y a un an, presque jour pour jour, au mois de mars 2024, où il y a eu des élections municipales. Or, le parti AKP, le parti de M. Erdogan, depuis son accession au pouvoir en 2002, avait gagné toutes les échéances électorales, municipales, législatives, présidentielles et référendaires. 16 élections de suite gagnées. Et pour la première fois, au municipal de 2024, renversement de tendance, toutes les grandes villes du pays, en premier lieu Istanbul, passent aux mains de l'opposition. Donc il y a là une modification en tendance du rapport de force. Hein, je ne dis pas que Erdogan est à terre politiquement. Non, ce serait bien exagéré prendre ses éventuels désirs pour des réalités. Mais c'est aussi ce paramètre-là qu'il intègre dans ses décisions liberticides en arrêtant Imam Olu, parce que Imam Olu était clairement la personnalité qui peu à peu s'imposait comme le principal opposant, le principal contradicteur, possédant une popularité, comme vous l'avez rappelé, indéniable, un charisme, un sens du contact avec ses électeurs, ses partisans et au-delà. Et donc, il s'agissait de casser cette dynamique. Alors certes, je ne sais s'il y parviendra. Et dernier élément, prenons en compte l'ampleur, la spontanéité, la radicalité des manifestations et des mots d'ordre qui vont bien au-delà du cas de Imam Olu. Moi, j'écoute les slogans. Ce sont des slogans sur le thème, et ça nous rappelle ce qui s'était passé dans les mondes arabes en 2012. « Dégage, casse-toi ! » Je mets des guillemets, bien évidemment. Donc, la société civile en Turquie, même si le terme de société civile n'est pas toujours bien défini, est encore debout. Elle a pris des coups, mais elle est encore mobilisable. On en a la preuve. Pour autant, au-delà de l'ampleur de ces manifestations, oui, c'est une partie de la population. Pour terminer, il y a une polarisation absolue depuis plusieurs années. On le voit là encore. Deux blocs sont face à face, d'à peu près la même puissance. Ces deux blocs ne se parlent plus. Ces deux blocs ne se comprennent plus. C'est ça qui est infiniment préoccupant. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui en Turquie de polarisation extrême dont on ne sait pas comment cela va se dénouer.
Adèle Bakawan, est-ce qu'il y avait une forme de crainte du président Erdogan face à l'ultra-popularité de son rival?
Ah oui, ça c'est indiscutable. Bien évidemment, si aujourd'hui, on peut parler d'un acteur qui a le minimum du charisme, du référentiel, du symbolisme pour fédérer derrière lui les différents mouvements sociaux, peut-être certains partis politiques, d'autres catégories socio-professionnelles, c'est Imam Orlu. Imam Orlu, oui, c'est un orateur, c'est un pratiquant, il faut le dire, hein, c'est un pratiquant qui appartient à un parti laïque. Oui, mais la question, il faut calculer les choses à partir, non pas d'un idéal type, par exemple la démocratie, mais des faits, des données factuelles.
Ça, vous l'avez bien expliqué. Oui.
Juste pour rappeler, bien évidemment, Imam Orlu a gagné Istanbul, la mairie d'Istanbul, mais il a gagné parce que entre les deux blocs, comme tu le dis si bien, face à face, il y avait le vote kurde. Sans le vote kurde, il ne pourrait jamais gagner contre le candidat de AKP. Et aujourd'hui, Erdogan, ce joueur qui joue parfaitement, qui calcule, pragmatique, etc., il a neutralisé le vote kurde en lançant le processus de réconciliation. Et en même temps, si tu remarques, le maire d'Ankara, le maire d'Ankara, Hevash, hier, il avait un discours en provoquant toute la communauté kurde en Turquie, en critiquant, en banalisant le drapeau kurde. Et les Kurdes, aujourd'hui, non seulement en Turquie, mais aussi en Syrie, en Irak, en Iran, ils demandent aux Kurdes de Turquie de soutenir Erdogan face à ce CHP qui n'est pas encore au pouvoir. Et qui... Autrement dit, je voulais dire, bien évidemment, Imam Orlu, c'est un candidat crédible. Mais à lui seul, il ne pourra jamais gagner. Il doit fédérer, il
c'est
doit
entendu,
convaincre.
Mais est-ce qu'en l'arrêtant, Erdogan ne prend pas le risque de le rendre encore plus populaire dans un écho d'ailleurs à sa propre histoire, quand il avait été arrêté lui-même, maire d'Istanbul, par la vieille garde
kémaliste. Deux scénarios possibles, pour répondre à votre question. Le premier scénario, c'est le scénario de Salahaddin Demirtas. Il était très très très populaire. Mais lorsqu'il a été mis en prison, il n'a pas pu gérer le processus électoral, la campagne électorale, et donc il a été marginalisé, le premier scénario. Le deuxième scénario, si jamais le mouvement de contestation est là, l'enjeu principal, le centre de gravité, c'est le mouvement de contestation, et non pas l'Europe, et non pas les États-Unis, et non pas les autres partis politiques. S'il se radicalise, si par exemple adopte ce que j'appelle la désobéissance civile, si le pays est entré dans une phase ingouvernable, dans une impasse généralisée, là, il y a le scénario d'une négociation avec Imam Orlu pour qu'il sorte grandir.
On y vient d'ailleurs. Comment vous avez commencé déjà à l'évoquer, Didier Billon, expliquer cette onde de choc après cette arrestation brutale du maire d'Istanbul, ces milliers de manifestants, beaucoup de jeunes notamment, partout dans le pays, pas seulement dans les grandes villes.
C'est l'expression qu'une partie de la population, je dis bien une partie de la population turque, n'en peut plus. C'est l'expression d'un ras-le-bol. C'est-à-dire que l'ordre liberticide, l'ordre moral conservateur que veut imposer l'AKP, le parti de Erdogan, ainsi, ne l'oublions pas, que la dégradation économique qui se poursuit depuis plusieurs années rend pour des millions de citoyens turcs la situation insupportable. Et évidemment, comme toujours dans ce type de mouvement, c'est la jeunesse qui est à l'avant-garde, c'est la jeunesse qui est l'élément moteur. Moi, je suis frappé que Imam Orlu soit arrêté mercredi matin. Le mercredi, dans la matinée, à la mi-journée, les étudiants d'un certain nombre d'universités d'Istanbul, en premier lieu l'université francophone de Galatasaray, que je connais particulièrement bien, ont stoppé les cours, sont descendus dans la rue, ont été se rendre en cortège à une place proche de l'université, et le soir, bien évidemment, il y a eu la première grande manifestation. Donc attention, en tant que tel, ce mouvement n'aura pas lui-même les forces d'abattre Erdogan, ça ne se pose pas évidemment ces termes. Une des contradictions de la situation, c'est la politique que va adopter le Parti républicain du peuple, le parti de Imam Orlu. Ce n'est pas un parti révolutionnaire. Au début, il voulait un peu calmer les choses. Et puis, vu l'ampleur de la signification de l'arrestation de Imam Orlu, et puis vu l'ampleur des manifestations, eh bien, le secrétaire général, M. Özgür Özel, a appelé à descendre dans la rue pour défendre la liberté. Ça, on ne s'y attendait pas. Donc, il y a un certain nombre d'éléments où même le Parti républicain du peuple peut être amené à aller plus loin que ce qu'il ne voudrait, poussé par les événements. restons froids, restons lucides. La situation est en mouvement, elle est infiniment volatile, instable, donc nul ne sait à ce soir la forme que cela peut prendre. Ce que je crains beaucoup, c'est qu'il y ait une répression qui s'accroisse dans les jours à venir. On a déjà constaté qu'hier soir, à Istanbul tout particulièrement, mais aussi à Izmir, à Ankara, la répression s'est fait plus forte que les jours précédents. Que se passera-t-il ce soir? Je n'en sais rien, nous allons suivre ensemble les informations, mais là il y a un danger. J'évoquais tout à l'heure la polarisation. Cette polarisation, elle peut aussi se dénouer dans la violence.
Sachant que nous sommes dans notre culture...
On peut craindre une répression encore plus brutale. Est-ce que les prochains jours sont complètement décisifs comme
C'est une très bonne question, sachant que nous sommes dans le contexte d'un pays, d'un État qui a intériorisé la culture du coup d'État, n'est-ce pas, à plusieurs reprises. Et je crains, bien évidemment, je crains, pour que je sois bien compris, je ne suis pas là pour soutenir bien évidemment un acteur contre un autre acteur. J'analyse d'une manière vraiment froide. Je crains...
Vous êtes là pour ça, par ailleurs.
Merci beaucoup. C'est important de le dire parce que le contexte est très particulier. Dès qu'on analyse d'une manière ou d'une autre, peut-être certains...
On est d'accord,
allez-y. Voilà, donc je voulais dire, si jamais le CHP passe par la radicalisation, ce qui n'est pas sa culture, son passé, son expérience, mais si jamais prend ce scénario, si jamais il adopte ce paradigme, il est fort probable que Erdogan apparaisse comme l'homme, le garant de la sécurité, de la stabilité d'un grand pays, d'une grande puissance à laquelle on parle tous, les Européens ont besoin de la Turquie, les Américains, et donc là, sortir renforcé et par exemple provoquer les élections anticipées, modifier la constitution pour se donner la chance de se représenter encore deux ou trois fois. Il faut dire, il n'a que 71 ans.
C'est peut-être ça d'ailleurs le pari entre guillemets du président Erdogan.
Erdogan, il a une obsession, en réalité, c'est se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Il sait très bien, là on pourrait faire un parallèle, bien que comparaison ne soit pas raison, avec Netanyahou. S'ils sortent du pouvoir, immédiatement, de multiples procédures judiciaires vont s'abattre sur eux. Donc il a cette obsession, et c'est pourquoi il prend des risques. Parce que même dans l'hypothèse, qui n'est pas absurde du tout, d'élection anticipée, il prend un risque politique, il n'est pas sûr de passer. Il a beaucoup d'inimitiés, d'adversaires politiques. Encore une fois, la situation objective de millions de Turcs ne les prédispose pas ou plus à voter pour lui. Donc ne pensons pas que les élections sont faites à l'avance en Turquie. La chose nouvelle, pour revenir à la première question, c'est que pour la première fois, le dirigeant d'un grand parti, élu démocratiquement de la plus grande ville de Turquie, se fait mettre en prison. Jusqu'alors, et c'était tout aussi condamnable, mais c'était des plus petits partis, des partis kurdistes, dont on voyait les maires démis de leurs fonctions. Or, les Turcs, les citoyens turcs, c'est le produit de leur histoire, de leur culture, de leur formation, sont extrêmement attachés au respect du résultat des urnes. C'est très important. Lors de la première élection d'Imamoglu à Istanbul, il y avait eu un deuxième tour, il avait gagné à 13 000 voix d'avance. Il y avait une procédure judiciaire qui a annulé le résultat. Donc il y a eu un deuxième tour, si vous voulez. Et là, il a eu 800 000 voix d'avance, ce qui prouve l'attachement des citoyens turcs à la légalité. Il ne faut pas l'oublier.
Adel Bakawan, comment vous interprétez ces condamnations un peu molles, on va dire, de la part des Européens qui se disent très préoccupés, mais qui, visiblement, semblent vouloir ménager leur allié, le président Erdogan?
Je le place à deux niveaux. Le premier niveau, c'est global. C'est général, il ne s'agit pas uniquement de la Turquie, il s'agit de l'ensemble de ce qu'on pourra appeler le Grand Moyen-Orient. Regardez comment les Européens se comportent avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte du maréchal Sisi et d'autres pays. La question, comme j'ai dit dans mon introduction, de la démocratie depuis l'échec du printemps arabe est derrière nous. Pour la Turquie aujourd'hui, malheureusement, les Européens ont fortement besoin de la Turquie pour mettre en place leur appareil de défense. Et on sait très bien que la Turquie pourra jouer un rôle important dans ce domaine.
Merci, ce sera le mot de la fin sur l'Europe qui ménage donc leur allié turc. Merci Adel Bakawan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La décomposition du Moyen-Orient, apparaître en mai prochain aux éditions Erol. Merci également à Didier Billon, auteur de Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde, c'est aux éditions Agone. Merci à tous les deux d'être passés à RFI. Un grand merci également à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à préparer cette émission et à la réalisation ce soir. Valentin Blanc.